La marge, c'est le nerf de la guerre pour tout investisseur immobilier. Alors quand on se lance dans une opération d'achat-revente, la question est cruciale. Quelle marge viser pour que ce soit rentable? Et la réponse est loin d'être évidente. 15%, c'est le seuil que certains recommandent. Et 20%, ça semble un peu plus intéressant, mais est-ce vraiment suffisant pour couvrir les risques? À 30% et plus, là, ça commence à devenir sérieux. C'est ce qui est venu expliquer Sylvain Turbet, marchand de main expérimenté, au micro du podcast de La Bonne Fortune lors de l'épisode 60. Il nous explique l'univers passionnant de l'activité de marchand de biens. Il revient en détail sur ses premiers flips et on analyse ensemble et en profondeur une opération d'achat-revente proposée sur lebonflip.com, la plateforme d'investissement collaborative. Et si tu veux en savoir plus, j'ai préparé une vidéo et un dossier complet avec tous les chiffres de ce flip immobilier en cours. Tu peux les télécharger depuis le lien que tu trouveras dans la description de cet épisode ou directement depuis lebonflip.com/vidéo. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir cette nouvelle émission.
Très vite, je me suis dit, c'est quand même sympa d'aller dans sa boulangerie, dans un supermarché, aller chez le coiffeur, aller dans une banque, parce qu'on consomme quand même beaucoup d'immobilier au quotidien. Quand on lit la presse, on a l'impression que tout va s'écrouler, que les gens ne veulent plus aller au bureau, donc il ne faut pas investir dans les bureaux, que les commerces et proximités ferment dès qu'il y a un confinement, donc il ne faut pas investir, que tout le monde quitte Paris, donc il ne faut pas investir à Paris, que tout le monde veut habiter dans des maisons, donc il ne faut pas acheter des appartements. Donc en fait, si on lit la presse, on a l'impression qu'il ne faut rien faire. Et en termes de rendement, pour répondre à ta question, on est souvent sur des rendements assez équivalents entre le résidentiel et le commerce. Mais la grosse différence, c'est que dans le commerce, tu refactures toutes les charges à ton locataire. Que ce soit la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances, les travaux à l'intérieur du local sont à sa charge. Donc finalement, à rendement équivalent, le rendement net, lui, pour le coup, est beaucoup plus élevé sur l'immobilier commercial.
Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandre Toussaint. Donc, Alexandre, tu es cofondateur notamment donc, de Baltis Capital. Aujourd'hui, on va faire une petite émission intéressante sur l'immobilier, mais l'immobilier commercial. En quelque sorte, j'ai appelé cette émission « Comment acheter sa boulangerie préférée avec 1000 euros ?» On va voir si c'est un petit peu plus varié ce que tu proposes que les simples boulangeries, bien sûr. Alors, tu as un parcours assez riche, tu as 34 ans et à travers ce que je peux voir sur ta fiche LinkedIn, en tout cas présentation, c'est franchement assez bluffant. Tu as un master en économie et gestion, tu as un master spécialisé en patrimoine immobilier, tu es un multi-investisseur, multi-entrepreneur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, Alexandre?
Ouais, salut Ismaël. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être sur ton podcast que je commence à écouter de manière de plus en plus fidèle là depuis septembre. Donc, je suis tout ça. Donc, déjà, bravo pour ton podcast. Et donc, effectivement, Alexandre Toussaint, donc 34 ans. Moi, j'ai fait des études au départ très généralistes sur économie-gestion à la Sorbonne. En fin de cursus, je me suis spécialisé sur tout ce qui est gestion de patrimoine et immobilier.
Yes.
J'ai commencé même mon premier job chez CBRE. Je faisais du conseil bureau sur le secteur de la défense. Ensuite, je suis parti chez Foncière Magellan, donc une foncière qui était dédiée plutôt bureau commerce, où j'ai ouvert le département Paris-Île-de-France.
Okay.
Et assez vite, c'est chez eux que j'ai eu l'idée de monter Baltis Capital pour rendre des projets immobiliers plus accessibles aux particuliers.
Tu le fais vraiment de façon, ta présentation, j'adore, de façon succincte, mais une certaine humilité parce que t'as vraiment fait énormément de choses à cet âge-ci. Qu'est-ce qui t'a amené dans le secteur du commerce? Est-ce que t'avais une appétence particulière de base? Est-ce que dans ton entourage, ta famille, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier d'une part et commercial d'autre part?
Dans ma famille, personne n'a évolué dans l'immobilier, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert un petit peu par hasard. Donc plutôt au départ, c'était des bureaux.
Yes.
Chez CBRE, chez Foncière Magellan, c'était plutôt bureau, utilisateur bureau, voire des grands plateaux, voire des grands immeubles de bureaux. Sauf que moi, ça me parlait pas trop de travailler sur cette classe d'actifs parce que je la sentais pas trop très accessible. Et en fait, quand j'ai regardé un peu le paysage de l'immobilier, il y en a une qui me parlait plus. C'était soit celle dans laquelle j'habite parce que je connais, donc le résidentiel, soit celle dans laquelle je vais faire mes courses justement. Donc je vais régulièrement. Donc très vite, je me suis dit, bah c'est quand même sympa d'aller dans sa boulangerie, dans un supermarché, aller chez le coiffeur, aller dans une banque, parce qu'on consomme quand même beaucoup d'immobilier au quotidien. Parce qu'on dort dans l'immobilier, on travaille dans l'immobilier, puis on consomme dans de l'immobilier ou même des restaurants. Donc je me suis dit, la classe d'actifs la plus parlante, je trouve que c'est l'immobilier commercial, parce que inconsciemment on y est quand même tous les jours, et surtout dans le cœur de ville où en fait en bas de chez soi on a toujours des commerces partout, en bas du bureau, en bas de chez soi, en vacances, on a toujours un commerce pas loin. Et du coup je me suis dit, c'est une bonne classe d'actifs qui parle à tout le monde aussi, et que tout le monde voit au quotidien.
On va revenir sur les différentes solutions que vous proposez avec Baltis Capital, mais justement sur cet immobilier commercial. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans des commerces de proximité, des boulangeries, des restaurants ou d'autres types de commerces, hein, tu pourras évoquer ce que vous faites, à l'heure où on a traversé la crise Covid, les confinements, à l'heure où la digitalisation prend une place de plus en plus importante dans les business, en quoi ça peut être intéressant? Alors moi j'y vois du sens, hein, forcément on participe à l'économie réelle sur des choses tangibles, etc. Mais en quoi ça peut être intéressant aujourd'hui d'investir dans des commerces de proximité, centre-ville, cœur de ville, etc.
Ouais, bah, il faut pas trop lire la presse, hein, parce que quand on lit la presse on a l'impression que tout va s'écrouler, que les gens veulent plus aller au bureau, donc faut pas investir dans les bureaux, que les commerces de proximité ferment dès qu'il y a un confinement, donc faut pas investir, que tout le monde quitte Paris, donc faut pas investir à Paris, que tout le monde veut habiter dans des maisons, donc faut pas acheter des appartements. Donc en fait, si on lit la presse, on a l'impression qu'il faut rien faire. Et pour autant, on voit que tout le monde continue à investir et dans les bureaux, et dans des hôtels, et dans des commerces. Donc il faut faire attention à ce qu'on lit. Et nous, on est assez convaincus de la classe d'actifs immobilier commercial, mais pas que. On pourrait investir sur d'autres classes d'actifs. Mais en tout cas, on a choisi celle-ci. Et on est très rassurés de voir que pendant les différentes phases de confinement, les commerces, il y a une classe d'actifs qui est née, hein, pour moi, qui sont les commerces essentiels. C'est vrai qu'au départ, on achetait plutôt, alors on appelait ça des commerces de bouche, souvent. Maintenant, on appelle ça des commerces essentiels aussi chez nous. Donc, on achète que des commerces essentiels et finalement, qui restent tous ouverts pendant les phases de confinement. On a tous eu une boulangerie près de chez nous ouverte, une pharmacie, les crèches ont continué à accueillir les enfants. Donc, on est vraiment focus sur les commerces qui ont une activité essentielle. Donc, on continue à investir sur cette classe d'actifs.
Donc, vous ciblez des commerces de taille à taille humaine, en quelque sorte, ou vous faites aussi des commerces peut-être un peu plus importants? Est-ce que vous investissez également sur des centres commerciaux, des grosses plateformes, ou vous êtes focus vraiment sur le petit commerce de proximité? Parce que des fois, on peut avoir une sensation de désertification quand même des centres-villes en dehors de la presse. Il y a quand même une certaine réalité dans beaucoup de villes de taille moyenne où on voit malheureusement des rideaux qui se ferment un petit peu, etc., au profit de plus gros centres qui se mettent en périphérie. Quelle est votre approche, vous, directement là-dessus? Quelle est ta vision?
Ouais, nous, on investit uniquement dans les cœurs de ville, donc centre-ville. Ça, c'est plutôt une conviction un peu personnelle que j'avais, que j'ai toujours, de dire que l'avenir, pour moi, il est en cœur de ville et pas en périphérie. Je pense que les gens vont avoir de moins en moins de voitures, que les jeunes ont de moins en moins le permis aussi, et qu'ils veulent se déplacer avec des moyens de mobilité douces, donc plutôt en vélo, en trottinette, à pied. Mais les gens veulent plus aller prendre leur voiture pour aller faire leurs courses, aller au bureau ou se déplacer. Pour moi, les gens qui partent en vacances, ils veulent limite prendre le train, descendre de la gare à pied et aller chez des copains ou dans la maison qu'ils ont louée. Ils veulent plus trop prendre la voiture. Donc, qui dit pas de voiture, dit vraiment, on se regroupe vraiment en centre-ville, près de la gare, près de la mairie, près de la poste, près du marché. Donc, c'est vraiment, nous, c'est vraiment le pied d'immeuble en copro, en cœur de ville, rue piétonne, semi-piétonne, rue commerçante, proche d'un métro, proche d'un tram. Et typiquement, c'est la boulangerie de quartier, c'est la crèche, la pharmacie, c'est l'agence immobilière, c'est le restaurant. Donc, c'est des petites cellules qui vont entre 20 mètres carrés et 100 mètres carrés au pied d'un immeuble d'habitation. Donc, on est toujours en copro avec une vitrine très classique et qui est louée à une activité soit commerce de bouche, soit du médical ou soit des enseignes nationales type La Poste, des banques, des assureurs.
Typiquement, ouais, l'ensemble des commerces qu'on peut retrouver sur les places de centre-ville classique.
Tu vois, sur tes questions sur les centres commerciaux, moi, en tout cas, titre perso, ça m'excite pas d'aller dans un centre commercial. Je trouve que c'est un peu impersonnel, c'est un peu froid, c'est pas forcément joli. Il faut prendre sa voiture, il faut se garer, il faut marcher. Je me dis jamais, tiens, ça va être sympa, on va aller faire des courses dans un centre commercial. Alors que je trouve ça hyper sympa d'aller dans ces commerces de proximité, de papoter avec son boulanger, avec son poissonnier, et de créer une vie de quartier. Dans un centre commercial, t'as pas de vie de quartier. Et le sujet du centre commercial, c'est qu'imaginons demain. Alors souvent dans les centres commerciaux, t'as souvent ce qu'on appelle une locomotive. Donc t'as un Auchan, t'as un Castorama, enfin une grosse enseigne qui porte 80% ou les trois quarts du centre. Mais si jamais lui vient à partir, bah t'as tout un peu qui s'effondre. Et qu'est-ce que tu fais d'un centre commercial qui fait 10 000 mètres carrés un peu au milieu de nulle part? Bah ça vaut pas grand-chose, quoi.
Ouais, exactement,
Alors que
ouais.
ton petit boulanger en bas de chez toi, bon, bah, s'il part pour X raison, tu sais que tu peux relouer à une autre activité parce que sur 50 mètres carrés, où tu payes, je sais pas, 2 000 euros de loyer par mois, tu sais que tu as beaucoup de potentiel pour le. Enfin, c'est plus facile de le relouer ou même de le transformer versus ta grosse boîte à chaussures un peu en périphérie.
Clairement, d'un point de vue technique, je te rejoins, mais également d'un point de vue, on va dire, sentimental. À titre personnel, je partage également ces gros centres commerciaux. Personnellement, ça me donne des boutons. J'ai le vertige quand je vais dedans, j'ai horreur de ça.
T'as vu tous les centres commerciaux aux États-Unis qui sont abandonnés? Alors c'est super pour tourner des films, mais sinon ils sont abandonnés, on peut rien y faire, quoi. C'est très dur de le transformer en bureau ou en escape. Enfin, tu fais un escape game ou un paintball, quoi, mais c'est léger, quoi.
Puis le fait de pouvoir se tourner sur des acteurs, bah peut-être qu'on va connaître, ça va être notre voisin, ça va être moi dans ma ville. Là, j'ai une amie qui a repris justement une boutique de robes de mariée dans une petite commune. On est 5 000 habitants et qui a redonné vie, etc. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que d'avoir un grand groupe. Et voilà. Et donc le fait de participer comme ça à l'économie réelle de taille humaine et de connaître son commerçant, c'est vrai, c'est d'autant plus intéressant. La grande différence, parce que donc l'immobilier commercial, ok, la grande différence, pourquoi pas, de l'habitation, aujourd'hui, tu l'as dit également, donc l'immobilier, d'une façon générale, on a besoin de se loger, donc t'hésitais un petit peu entre ces deux voies. Bon, au sein de Baltis Capital, vous faites aussi certainement un petit peu d'immobilier d'habitation, on pourra y revenir sur les différents types de produits que vous avez, mais l'immobilier commercial, l'habitation, ça va être quoi les grandes différences?
Ouais, alors déjà ce choix, donc c'était, on l'a dit au départ, très parlant pour tout le monde, mais c'était surtout, moi je voulais apporter une source de diversification. Ce serait quand on investit dans l'immobilier, le premier réflexe qu'on a, c'est du résidentiel parce que c'est soit sa résidence principale ou assez vite c'est un investissement locatif dans le résidentiel où on achète un studio, un appartement, une maison. Donc très vite on pense à l'immobilier résidentiel et pas forcément à l'immobilier d'entreprise au sens large et donc pas forcément au commerce. Parce que, un, c'est pas un réflexe, et deux, parce que ça semble aussi inaccessible, plus compliqué, un marché plus opaque, ça semble pas accessible aux particuliers. Donc moi, je me suis dit, bon, les gens sont très orientés vers le résidentiel, il faut que je leur apporte une autre solution pour qu'ils diversifient vers une autre classe d'actifs qui est tout aussi bien. Donc je me suis dit, on va faire que des commerces pour proposer autre chose, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne fait que des commerces en investissement. Alors après, comme tu disais, on a d'autres activités où on finance des promoteurs, des marchands de biens qui, sur des classes d'actifs résidentielles, bureaux, entrepôts, logistiques, etc. Mais sur la partie investissement, c'est que des commerces de proximité.
Les différences en termes de, est-ce qu'on va avoir des différences en termes de rendement potentiel? Est-ce qu'on va avoir des différences en termes d'engagement? Les différences de baux, d'un point de vue vraiment technique pour l'investisseur, un investisseur lambda qui voudrait se lancer tout seul ou alors avec votre solution, mais ça va être quoi les subtilités techniques, de ce type d'acquisition?
Ouais, il y a beaucoup de différences qui tiennent principalement au fait que ce soit loué à un commerçant, un exploitant. Donc déjà, il faut savoir que la taille des actifs est quand même souvent un peu plus grosse. On va pas acheter des commerces à 100 000 ou 150 000, 200 000 euros, c'est quand même assez compliqué. Donc on arrive vite sur des enveloppes à 300 000, 400 000, 500 000 euros. C'est pour ça que y aller tout seul, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est quand même assez vite des gros volumes. Ensuite, en termes de nombre de dossiers, il y en a aussi beaucoup moins. Tu vois, si je prends notre stratégie d'investissement où on est au pied d'un immeuble qui fait 10 étages, ben dans les 10 étages, tu n'as qu'un commerce. Donc, tu as 1 sur 10, c'est un commerce. Donc, c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de dossiers.
Eh oui.
Et ensuite, les particularités, donc c'est le bail commercial. Donc, on loue à un professionnel qui en fait son activité. Donc, dans le bail commercial, on a des baux 3, 6, 9. Donc, 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc, en fait, c'est un bail de 9 ans. Et le locataire, l'exploitant, peut partir au bout de 3 ans, au bout de 6 ans et au bout de 9 ans. Donc, c'est-à-dire la lisibilité dans le temps, elle est assez claire. Et s'il veut partir, il doit prévenir 6 mois à l'avance. Donc, ça veut dire qu'on sait a priori, si le locataire part, on sait exactement quand est-ce qu'il peut partir. Donc, c'est plus facile de s'organiser. Et ensuite, la grosse différence avec le résidentiel, c'est que comme les gens sont là pour leur travail, pour exploiter, ils sont là pour payer leur loyer, parce que c'est leur travail. Donc, s'ils payent pas, on peut les mettre dehors assez facilement. Enfin, facilement. En tout cas, plus facilement que le résidentiel. Mmh. Parce que c'est plus facile d'expulser quelqu'un parce qu'il y travaille, mais on va pas le mettre à la rue, comme dans le résidentiel, où c'est un peu, éthiquement, c'est quand même compliqué de mettre les gens dehors. Là, c'est juste, on le met dehors, mais il a quand même un toit à côté pour y habiter. Donc là, c'est vraiment du business. Donc il a tout intérêt à payer son loyer parce que sinon, il perd son activité, il perd son job.
Ouais, bien sûr.
Donc, et même si son activité va pas très bien, il la revend finalement à un autre exploitant qui prend le relais et qui re-exploite le local derrière. Et en termes de rendement, pour répondre à ta question, on est souvent sur des rendements assez équivalents entre le résidentiel et le commerce. Mais la grosse différence, c'est que dans le commerce, tu refactures toutes les charges à ton locataire. Ce soit la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances, les travaux à l'intérieur du local sont à sa charge. Donc finalement, à rendement équivalent, le rendement net, lui, pour le coup, est beaucoup plus élevé sur l'immobilier commercial.
Et ouais, en effet, ouais, super intéressant. Du coup, ça apporte une diversité sur les classes d'actifs. Deuxièmement, ça sécurise un petit peu parce que le commerçant, il va être engagé souvent sur une durée plus longue que un locataire sur un studio qui va avoir un turnover tous les ans, etc. Si on est sur des beaux meublés, en un mois de temps, il appuie sur le bouton et il part, que là, c'est pas le cas, il y a une visibilité. Et en plus, tu parlais donc du bail commercial. On peut, si malheureusement, pour X raisons, ça se passe mal, récupérer le bien plus facilement. Il n'y a pas de trêve hivernale pour les commerçants, forcément. C'est dû à quoi? Il y a une force exécutoire un peu plus intéressante. Quand on signe un bail commercial, on doit passer par un notaire, on passe par une agence, on le fait nous-mêmes. Ça se passe comment techniquement pour un bail commercial, ce 3-6-9?
Typiquement, c'est ouais, c'est très classique. Hein, tu le fais. Alors, tu peux le faire chez un notaire si tu veux qu'il soit authentique. Mmh. Donc, c'est-à-dire enregistré, donc rédigé par un notaire, ensuite enregistré. Mais sinon, on les fait sous sein privé, donc on les fait entre nous. L'avantage du bail commercial, c'est qu'il est très très souple. Hein. À partir du moment où les deux parties sont d'accord, on peut faire un peu ce qu'on veut. En termes de durée, on n'est pas obligé de faire les 3, 6, 9. On peut faire des 2, 3, 6, 9, des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des 9 tout court. On a déjà acheté des locaux où tu avais un bail de 6 ans ferme. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir avant 6 ans. Parfois, un 9 ans ferme. Donc, il ne peut pas partir avant 9 ans. Donc, tu sais que tu as 9 ans de loyer quasiment assuré. Alors, sauf s'il fait faillite entre-temps. Mais en tout cas, tu sais qu'il est parti pour 9 ans. Donc, il ne va pas tourner, comme tu disais, tous les ans parce que c'est un étudiant qui vient juste une année. Donc, tu n'as pas à rechercher un locataire à chaque fois. Et si jamais, ce que je disais tout à l'heure, si jamais l'activité du locataire se passe mal, généralement, c'est lui qui s'occupe de revendre donc son fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce, en gros, il y a deux notions dedans. Il y a tout ce qui est matériel. Donc, si c'est un restaurant, c'est des chaises, des tables, un bar, des cuisines, des frigos, etc. Et tout ce qui est immatériel, où c'est, on va dire, la clientèle, la notoriété. Donc, il revend ça. C'est comme un peu soit comme un médecin qui part à la retraite et qui revend sa patientèle. Donc, ça vaut quand même de l'argent. C'est-à-dire que dès que tu ouvres ton cabinet médical, bah, tu as déjà des clients qui sont là. Ou les chauffeurs de taxi qui revendent leurs bornes, etc. Là, les boulangers, alors, tu as l'impression que quand une boulangerie est là, elle est là pendant 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans. Tu vois peut-être pas, mais parfois, le boulanger, il change. C'est juste qu'en fait il a revendu son fonds de commerce à un autre boulanger qui a juste repris le local, qui a pas changé grand chose, peut-être qu'il a fait 2-3 travaux et changé quelques recettes, mais en tout cas il a continué l'activité. Et toi en termes de propriétaire, tu te rends même pas compte qu'il a changé, tes loyers continuent d'être payés et tu vois pas que l'exploitant a changé.
Ouais, donc beaucoup plus smart, il y a une vision un peu plus sécuritaire ouais, par rapport à l'habitation. C'est encore un autre mode de fonctionnement, mais ouais, qui est très très puissant, très intéressant. Ouais.
Tes loyers sont payés souvent par prélèvement, donc t'as pas à aller essayer de récupérer le loyer tous les mois en disant vous avez pas payé, vous êtes en retard, c'est par prélèvement. C'est comme c'est des professionnels, c'est des chefs d'entreprise, on va dire, à chaque fois, on fait par prélèvement, on les prélève chaque mois. Dès que la taxe foncière arrive, claque, on y rembourse, le lendemain c'est fait, ils payent les charges. Dès qu'il y a des travaux de mise aux normes ou de conformité ou d'amélioration, ceux qui les font, ils nous demandent même pas notre avis. La dernière fois, on a une pharmacie à Lille. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il y a une énorme fuite d'eau dans le local. Je fais, mince, c'est tout. Elle fait, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai tout réparé, c'est bon, bonne journée, c'était juste pour vous le dire.
Super.
Bon, bah, ok, très bien, tu vois. Bon, en gros, s'il y a une fuite d'eau dans son local, bah, en fait, elle peut pas l'ouvrir. Et donc, elle perd du chiffre d'affaires. Donc, elle a tout intérêt à le faire tout de suite pour faire un beau local et pour que sa clientèle revienne. Donc c'est quand même beaucoup plus simple.
Ouais, des gens qui sont beaucoup plus impliqués forcément en termes de locataires, qui sont beaucoup plus impliqués vu qu'ils ont leur business associé au local. Ouais, on comprend facilement. J'en profite pour te poser une question. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, comme quoi j'allais préparer cette émission, etc. Et donc, s'il y avait des personnes qui souhaitaient poser des questions. Et donc, le refuge de la salle qui m'a posé cette question, quelles sont les activités qui résistent le mieux à la désertification des centres, pour en revenir un petit peu sur nos discours préalables? Est-ce qu'il y a une typologie d'activités qui résistent bien?
Bah, celles qui résistent bien, c'est très simple à regarder, hein. C'est celles qui sont restées ouvertes pendant les phases de confinement. En fait, le confinement, nous, ça a été un bon test pour savoir si on avait une bonne stratégie d'investissement et voir s'il y avait d'autres, effectivement, classes d'actes, enfin, d'autres activités qui marchaient. Et quand tu regardais, bah, juste commerce essentiel, la définition, donc tu sais que si tu investis dans les commerces essentiels, le Covid, c'est quand même une grosse, grosse crise. J'arrive pas à voir ce qui peut être pire que ça. Enfin, pire qu'un confinement. Donc, si pendant les périodes très, très compliquées, ta boulangerie du coin reste ouverte, tu sais qu'a priori, c'est un bon investissement, qu'elle sera toujours ouverte. On parlait de la digitalisation. Bon, on aura toujours besoin d'aller acheter son pain. Tout ce qui est commerce de bouche, on aura toujours besoin. On aura toujours besoin de crèche pour aller déposer nos enfants quelque part la journée, ou d'école. Après, il y a des activités où on en aura peut-être moins besoin, tu vois, comme le textile. On a peut-être moins besoin d'aller essayer les vêtements. Peut-être qu'on peut juste se les faire livrer, les essayer et les renvoyer. Donc ça, c'est pour ça que nous, on n'a jamais investi dans du textile, dans des activités textiles. Du coup, ça, évidemment, le confinement nous a prouvé qu'on a plutôt bien fait et qu'on n'allait pas changer de stratégie. Donc sur la désertification, c'est généralement, tu prends un petit, tu dois regarder chez toi dans la ville dans laquelle tu habites, regarde les commerces qu'il y a autour et tu verras que c'est très souvent les mêmes dans chaque ville. Ouais. Tu as souvent un boulanger, un bar PMU, un resto, une petite agence près de la poste peut-être qui est là. T'as peut-être une auto-école, t'as peut-être des choses comme ça. Donc c'est souvent les mêmes qui reviennent, et quand on construit une ville, en fait, très vite on dit on met une boulangerie là, on met peut-être un boucher, un poissonnier, peut-être une petite agence bancaire pour retirer de l'argent. Donc c'est souvent les mêmes qui reviennent. Le Covid n'a pas trop changé, mis à part accentuer les tendances. Donc on a vraiment besoin de commerce pour se nourrir, et toutes les activités un peu on va dire secondaires, comme s'habiller ou les chaussures, ou des cigarettes électroniques, ou des choses comme ça, là, pour le coup, a vraiment du mal à résister depuis 2 ans. Et l'avenir en cœur de ville n'est pas pour eux, ça, c'est sûr.
Au niveau de Baltis Capital, du coup, qu'est-ce que vous proposez pour les investisseurs? Alors, on va vraiment faire le focus sur l'immobilier commercial, mais si je ne dis pas de bêtises, vous proposez de l'investissement dans des SCPI, du crowdfunding via de la dette pour financer des opérations de marchand de biens, donc habitation et ou commercial. Ou d'entrepôts, etc. Mais sur l'investissement purement commercial, si je veux acheter ma boulangerie préférée avec 1000 euros, comment ça se passe un petit peu? Qu'est-ce que vous proposez?
Ouais, alors justement, une fois qu'on a été convaincu dès le départ de Baltis de se dire il faut qu'on investisse dans les commerces en cœur de ville, donc comme je te disais, c'est vite des actifs à 300 000, 400 000, 500 000 euros. On s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour permettre à tous ces gens qui ne peuvent pas investir seuls d'investir ensemble. Moi, j'ai un bon copain qui a monté le site Le Pot Commun, donc le site de Cagnotte.
Yes.
Et je me suis dit un soir, je vais faire un pot commun de l'immobilier dans lequel chacun mettra ce qu'il veut, 1000, 2000, 3000, 10 000 et ainsi de suite. Une fois qu'on a constitué le pot, au lieu d'acheter un cadeau pour un anniversaire, on va aller acheter de l'immobilier et on va se partager les loyers tous ensemble chaque année. Ouais. Donc, un peu le format de la SCPI, sauf qu'avec, on allait faire qu'un seul actif par opération. Parce que moi, les SCPI, j'aime bien, mais j'ai moins de conviction, parce que on sait pas trop ce qu'on achète. Et moi, je voulais savoir exactement où part mon argent, et je veux pas que ça parte dans un fonds qui investit dans plein de choses différentes.
Ouais, ouais. La grande différence, si on peut faire un petit arrêt sur une image, alors les SCPI, ça peut être très très bien pour différentes raisons, mais c'est ce qu'on va appeler plus communément de la pierre papier. On achète des parts d'un fonds, mais c'est de la pierre papier, que là, on achète vraiment un local tangible. Ouais. La différence, c'est bien ça. Hein.
La SCPI, c'est même plus du papier que de la pierre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète, on ne va pas visiter, on ne choisit pas ce qu'on achète. Alors nous, on en fait sur Baltis, mais on n'en fait que 4 qui sont très, très spécialisés. On en a une qui investit que dans la santé, donc des hôpitaux, des cliniques, des maisons médicales. Une qui investit que dans les locaux d'activité, entrepôts, logistiques. Une qui fait que des commerces de proximité, un petit peu à l'image de Baltis. Et une qui fait que des parcelles viticoles, donc dans le vin. Donc, c'est des classes actives très, très spécialisées. Ouais. Donc là, on y croit, parce que du coup, il y a une vraie stratégie, c'est très lisible, c'est une verticale très claire. Donc, c'est pour ça qu'on fait que ces 4 SCPI pour l'instant. Et sur les autres activités, donc on finance, comme tu disais, des marchands de biens, des promoteurs, toutes les classes d'actifs, et les commerces, donc sous la forme de pot commun. Et donc ensuite, une fois qu'on a constitué le pot commun, on trouve un actif. Enfin, généralement, on trouve l'actif avant de lancer la cagnotte, hein, c'est le même principe. On va trouver une boulangerie, par exemple, à Poitiers. On va dire qu'il vaut 400 000 euros. Donc, on va lancer une collecte en disant, voilà, il y a une boulangerie à Poitiers avec un boulanger qui l'a depuis 20 ans, qui paye tant, voilà les plans, voilà le bail, voilà ses bilans. Voilà, on signe la promesse, enfin tout le dossier est communiqué sur le site. Et ensuite, les investisseurs peuvent souscrire à partir de 1 000 euros. Généralement, c'est des tranches de 1 euro après, hein, donc bon, c'est plutôt 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 et ainsi de suite. Donc, ça, donc là, au départ, on collectait 400 000 euros. Et ensuite, chaque mois ou chaque trimestre, le locataire paye ses loyers et était redistribué à tout le monde. Ce qui permettait d'investir dans une boulangerie avec 1 000 euros et de toucher un petit bout du loyer. Et quand on revendra, un petit bout de la plus-value, quoi.
D'accord, donc là dans l'exemple, si je mets 4 000 euros, j'ai 1%, 1% du local de cette boulangerie.
T'as 1% des loyers, voilà. Et tu auras 1% de la plus-value dans X années quand on aura revendu. Quoi.
Ok, ouais.
Donc ça, c'était le montage un petit peu initial où on le faisait 100%, ce qu'on appelle en equity, donc on collectait 400 000 euros et on touchait les loyers chaque année, chaque mois ou chaque trimestre. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que l'intérêt de l'immobilier, c'est quand même le financement bancaire. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que sur une opération, on va dire à 400 000 euros, on va aller dans les grandes lignes, hein, emprunter 300 000 euros à la banque et on va collecter 100 000 euros. Donc, c'est là, on a des contrats cadres avec la Caisse d'épargne, par exemple, qui nous finance beaucoup, beaucoup d'opérations. Donc, dans ce cas-là, nous, en gros, le petit pot commun qu'on a, c'est une SAS. Les investisseurs deviennent tous actionnaires de la SAS. La SAS signe le prêt au niveau de la banque, donc les 300 000, et ensuite va acheter le commerce. Donc là, forcément, tous les mois, les loyers servent à rembourser l'emprunt.
Bien sûr.
Donc, il n'y a pas de distribution aux investisseurs. Et dans X années, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, généralement, on a une vision plutôt à 7, 8, on va dire à 6 ans, où on se pose la question de revendre l'actif. Ce n'est pas automatique, mais on se pose la question. Et dans 6 ans, c'est là où, si on vend l'actif, que les investisseurs récupèrent leur capital plus les intérêts.
D'accord. Donc, sur ce nouveau schéma là que vous mettez en place où vous faites le financement, grosso modo, dans ton exemple, 25% en equity, donc en action sollicitée de par les investisseurs à partir d'un ticket de 1 000 euros. Et derrière, le reste, 75% grosso modo, en dette par la banque. Mais moi, investisseur, je bénéficie, si je mets 1 000 euros, je bénéficie des 3 000 euros de dette qui sont en face.
Exactement.
D'accord.
Donc, un, tu bénéficies dans ce qu'on appelle donc de l'effet de levier. Donc, c'est-à-dire que tu mets 1 000, mais c'est comme si tu avais, entre guillemets, investi 4 000. Hein, parce que.
Bien sûr, oui.
Si la collecte, c'est 100 000 euros et que tu mets on va dire 1 000 euros, donc tu as 1%, bah, tu as 1% de la collecte, mais tu as aussi 1% en fait, du deal global. Donc, effectivement, tu as ce petit booster.
Et, ouais.
Et surtout, c'est là aussi un gros intérêt, c'est que tu n'es pas caution du financement. Alors tu mets 1 000, tu bénéficies de l'effet de levier sans être caution, sans signer des papiers, sans envoyer tes avis d'impôt, tes salaires, etc. On ne te demande rien du tout. Tu as juste à souscrire et l'effet de levier, il est automatique.
Et ouais.
C'est un très bon outil pour soit ceux qui ne sont pas encore finançables, donc soit des jeunes, soit des gens qui sont en CDD, des intermittents, des entrepreneurs, des gens à leur compte, ou même des retraités qui ne sont plus trop finançables parce qu'ils sont à cause de l'âge. Ben là, ils peuvent quand même bénéficier du financement bancaire indirectement grâce à cette solution.
En effet, super intéressant pour tous ces profils, des gens qui arrivent peut-être bloqués à un niveau d'endettement qui est trop élevé. Je viens d'acheter ma résidence principale ou je viens de faire un investissement locatif, etc. Ça va être compliqué de renchaîner cette année, l'an prochain, etc. Ben, je peux bénéficier comme ça d'un emprunt indirect au travers de votre solution et en plus sans avoir les inconvénients d'être garant, d'être caution, sans prendre d'assurance invalidité, sans prendre, etc., etc., avec des freins en moins.
Mais ça, je sens que la première raison d'investissement, c'est plus le temps. Souvent, quand on demande pourquoi vous avez investi, alors oui, c'est accessible, c'est en ligne, etc. Mais c'est surtout le temps. Quand on veut investir dans l'immobilier, hein, et tu dois le savoir, ça prend beaucoup de temps. Entre trouver le dossier, signer la promesse, aller voir les banques, jusqu'à l'acquisition, tu peux avoir 2, 3, 4, 5, voire 6 mois. Parfois, non, ça dure 6 mois les projets. Là, la personne voit un projet sur lequel elle veut investir, elle signe, elle paye, hop, c'est parti. Ouais. Donc, c'est un gain de temps énorme. Et avec un montage qui est bien, bien structuré, un effet de levier qui est plutôt bon. Alors souvent, on finance 70% en gros.
D'accord.
70-75%. Donc ça veut dire qu'en 3 clics, tu as fait un investissement locatif.
Ouais.
Alors certes, t'es pas tout seul, c'est pas toi qui prends les décisions tout seul. Mais voilà, donc tu as des avantages et tu as des inconvénients à cette solution. Mais la raison numéro 1, ouais, c'est le temps. Parce que c'est très rapide.
Ouais, bien sûr. Et bien, après, soit tu n'es pas forcément décisionnaire et très très actif dans la société, mais le côté passif peut correspondre pour beaucoup qui, comme tu le dis, hein, la notion de temps, on a tous des vies de dingue, courir à droite à gauche, rentrer le soir, aller chercher les enfants à l'école, à la crèche dans laquelle on aura pu potentiellement investir. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Ouais.
La position de dire, tiens, je bénéficie de l'effet de levier, je vois vraiment comme une force, parce que le crowdfunding, on entend beaucoup certainement ce que vous devez proposer également, vous, sur les opérations de marchands, où on a un rendement par souvent des titres d'obligations, on a un rendement en face, etc. Donc c'est peut-être d'une certaine façon un petit peu plus sécure, mais par contre on bénéficie pas de l'effet de levier bancaire que là le fait de le proposer ça peut intéresser quand même pas mal de monde.
C'est l'effet de levier et surtout on investit vraiment dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on est propriétaire ensemble d'un actif. Quand c'est l'obligataire, tu prêtes à quelqu'un, t'as pas investi dans l'immobilier, t'as financé quelqu'un qui va investir dans l'immobilier, donc c'est un petit peu différent. Là, quoi qu'il arrive, alors oui, évidemment, tu n'as jamais de garantie sur le capital, tu as toujours une perte possible, mais en tout cas, tu as acheté de l'immobilier dont tu es propriétaire de foncier. Donc, ça a quand même une valeur, quoi qu'il arrive.
Ouais, bien sûr, même si le marché s'écroule, etc., etc., il restera quand même les murs du tangible, du concret, et ça, malgré tout, une valeur, et ça, oui, c'est indéniable. Et le fait d'être de propriétaire, ça permet, encore une fois, comme tu disais, d'encaisser les loyers, etc. En termes de rendement, grosso modo, par rapport aux différentes opérations que vous avez financées depuis quand, je ne sais plus, Baltis Capital
2016
a été créé. Est-ce que vous avez un retour sur un rendement moyen par rapport aux différentes opérations, un petit peu, le retour sur investissement? Et peut-être, j'imagine que là, le fait de proposer en plus avec le levier bancaire, bon, ça a dû exploser un petit peu les chiffres en termes de rendement pour l'investisseur. Est-ce que vous avez un retour là-dessus en termes de chiffres?
Ouais, alors sur les actifs immobiliers en eux-mêmes, le rendement de l'actif, c'est souvent entre 6% et 7%.
D'accord, ouais.
Donc ça, c'est le loyer, c'est le rendement de l'actif, donc c'est le loyer sur le prix d'acquisition. Ça fait généralement 6% pour faire simple. Donc c'est 6% le rendement de l'actif. Comme tu dis, on met l'effet de levier, donc ça vient booster le rendement. Donc généralement, on passe sur des rentabilités qui vont entre 8 et 12%, effet de levier inclus. Donc ça veut dire que en fait l'investisseur qui va mettre 1000 euros dans 6 ans ou dans 7 ans quand on aura revendu l'actif, c'est comme si ce qu'il va récupérer, c'est comme s'il avait touché 8, 9 ou 10% par an pendant 6 ans ou 7 ans quoi.
Et du coup, tu parlais également des plus-values à la sortie, parce que ça peut faire une différence aussi énorme potentiellement. On voit sur un marché de l'immobilier qui est, on peut dire d'une façon générale, après il y a des grandes disparités en fonction des zones géographiques, habitation, commerciale, tel type de commerce, mais d'une façon générale est quand même assez haussier ce marché immobilier. Quelqu'un qui aurait investi en 2016 dans une boulangerie à Lille, etc., est-ce que tu as un retour par rapport à la valorisation des actifs également?
Ouais. Alors nous, on n'est pas obligé d'expertiser les actifs tous les ans, contrairement aux SCPI qui ont l'obligation d'avoir un avis de valeur, une expertise tous les ans. Nous, au départ, donc on va se placer en 2016, Mathieu, on va prendre un exemple, on a acheté une boulangerie près de Saint-Germain-en-Laye en 2016. On s'était dit qu'on l'achetait pour entre 5 ans et 7 ans. Donc on ne se pose pas trop la question pendant cette période-là. Là, on va commencer à arriver à l'objectif de temps qu'on s'était fixé. Donc là, j'ai fait estimer le local. On l'avait acheté, j'arrondis, on l'avait acheté 200 000 euros. Et là, l'expertise, c'est 300 000 euros.
Eh oui.
C'est quand même une belle plus-value potentielle. Hein. Ce n'est pas vendu, mais en tout cas, c'est expertisé à ce niveau-là. Donc si jamais on le vend vraiment à 300 000 euros, bah, c'est 100 000 euros de plus-value immobilière. On va évidemment les partager au prorata entre tout le monde.
D'accord, ouais, super intéressant. Ouais.
Donc ça veut dire que dans les 8, 9 ou 10% qu'on annonce au départ, on fait pas forcément dans nos BP de plus-value. On dit juste qu'on va revendre au même prix, mais avec une parallèle parfaite avec les loyers qui augmentent. Mmh. C'est aussi une des particularités du bail commercial, c'est que les loyers sont indexés chaque année selon un indice. Et l'indice prend en général entre 1% et 3% par an. Donc nous, on met 1% dans nos BP. Donc on dit que le loyer prend 1% par an et que dans 6 ans, on revend au même prix, mais avec un loyer un peu plus élevé, donc un peu plus cher. Donc on fait juste cette hypothèse-là, sachant que si évidemment, il y a une grosse plus-value à 100 000 euros, à 200 000 euros, à 300 000 euros, ben on la partage avec tout le monde, tout le monde en bénéficie.
Et donc là, c'est la cerise sur le gâteau et qui vient donc démultiplier encore ces chiffres initialement annoncés, où j'imagine, oui, vous avez certainement des contraintes déjà, votre activité doit être régulée, etc. Donc vous pouvez pas forcément, j'imagine, afficher tout et n'importe quoi, il faut que ce soit réglementé, carré, sérieux. Mais oui, j'y vois la cerise sur le gâteau.
En fait, contrairement aux obligations, où c'est contractuel, donc tu as du 10% par exemple, bah, c'est contractuel, c'est plafonné à la hausse ou à la baisse. Là, tu es en action, un peu plus risqué parce que du coup, tu peux avoir un peu moins, mais aussi du coup, avoir un peu plus. Donc si jamais ça fait plus, bah, tout le monde se le partage. On est tous actionnaires. Alors, Baltis, on est toujours aussi actionnaires dans les projets. Donc, on a plutôt nous aussi intérêt à revendre le plus cher possible parce qu'on va aussi en bénéficier. Donc, s'il y a plus-value, elle est partagée.
Et ouais.
Et ça, dans les BP, on essaie d'être assez prudent à chaque fois. Alors, pas forcément vis-à-vis de l'AMF, mais plutôt vis-à-vis de nous, en disant on ne veut pas faire rêver les gens sur des potentiels plus-values énormes, même si on est assez persuadé que le marché va exploser. On dit voilà, on va faire une hypothèse assez limite pessimiste, mais sachez que s'il y a une bonne plus-value, une bonne nouvelle à la fin, tout le monde en profite. Donc, restons prudents et si c'est une bonne nouvelle, tant mieux, quoi.
Ouais, c'est pas l'inverse de l'obligation où là on finance de la dette, il y a un rendement et si l'opération qui a été financée cartonne, bah tant pis, on se limite malgré tout que au rendement annoncé. Que là, il y a des projections, mais vu qu'on est encore une fois actionnaire, bah si c'est une sortie, bah, c'est forcément partagé. En termes de, alors en effet sur la plateforme, donc moi je me suis créé un petit compte forcément pour voir un petit peu le fonctionnement. Votre site est assez bien foutu, c'est assez agréable. Du coup, vous avez donc là les projets, si je me connecte dessus, donc les derniers projets sont clôturés, etc. On peut investir donc à partir de 1 000 euros. Bien au chaud, installé confortablement de chez soi, en trois clics. Donc simplement à créer un compte, connexion, rentrer ses identifiants, faire son KYC, donner sa carte d'identité, etc. Et de là, on investit. Comment ça se passe en termes de frais, etc. Est-ce que vous avez bien forcément besoin de vivre? Comment vous vous financez, vous rémunérez? C'est quoi un peu le business model de Baltis Capital sur ce type d'opération?
Ouais. Alors sur ce type d'opération, donc de commerce, il y a trois niveaux de rémunération. Il y a des honoraires de montage au départ. Donc nous, on prend 5% du montant de la collecte,
D'accord.
mais qui sont inclus dans des frais d'acquisition au même titre que des frais de notaire, que l'agent immobilier s'il y en a un. Bon, c'est indirect pour l'investisseur. Donc l'investisseur qui investit 1 000 euros, il y a vraiment 1 000 euros qui travaillent.
D'accord.
Donc ça, c'est les 5% du montant de la collecte. Ensuite, chaque année, on prend en gros 5% du montant des loyers, pour faire la gestion administrative, la comptabilité, le suivi des travaux, suivi des loyers, tout ce qui est la gestion immobilière du bien, de la SAS, donc 5% annuel. Et à la sortie, on prend 5% du montant de l'éventuelle plus-value,
D'accord.
s'il y a plus-value. Donc voilà, c'est 5% au début, 5% sur les loyers, 5% à la sortie, pour dire qu'on est là au début, pendant et à la sortie, sachant que, comme je te disais, on est aussi nos co-investisseurs dans les opérations. Donc on a vraiment un intérêt à bien gérer, à bien acheter, à bien gérer pour que les loyers tombent parce que ça nous concerne aussi, et à bien revendre à la sortie. Donc 5-5-5.
Ok, d'accord, ouais, super intéressant. Ben oui, forcément, parce qu'après une SAS, c'est pareil, il faut la constituer. Bon, j'imagine que vous avez soit un groupe de juristes en interne ou alors vous déléguez sur des cabinets extérieurs, mais dans tous les cas, c'est du boulot. Tous les ans, il y a une comptabilité obligatoire à fournir, etc. Donc, il y a des frais inhérents à tout ça. Quand tu dis 5-5-5, à la sortie, les 5%, c'est sur la plus-value ou c'est sur l'ensemble de l'opération?
Non, non, c'est sur le montant de la plus-value. Ouais.
Et ouais, donc c'est pas tout à fait 5%, c'est beaucoup moins par rapport.
C'est beaucoup moins, oui. Non, je veux dire, c'est le chiffre 5, c'est 5 de la collecte, 5 des loyers et 5 de la plus-value. Ouais.
Ouais. Donc bah c'est ce qui permet de vous avez également un intérêt à travers ces frais que l'opération se passe bien et qu'il y ait le maximum de plus-value. Et donc c'est un petit peu voilà, c'est le type de business model un peu gagnant-gagnant qui me plaît à titre personnel assez.
Et tu vois, tu parlais des investisseurs un peu passifs. Nous, on essaie de les rendre un petit peu actifs. Où dès qu'il y a une grosse décision à prendre sur le projet, c'est eux qui votent. Donc s'il faut vendre, bah, c'est pas nous qui allons décider de vendre, hein, c'est eux qui décident. S'il y a des gros travaux à faire, s'il faut changer de locataire, s'il faut finalement distribuer des dividendes parce qu'on a beaucoup de trésorerie, c'est eux qui décident. Donc nous, on a un système de vote en ligne où
D'accord.
Dès qu'il y a un sujet, on les fait voter, ils cliquent oui, non, abstention en 3 secondes, ça fait un résultat et en fonction, on applique ou pas la décision. Donc on essaye de. Ils sont passifs parce qu'ils sont pauvres, s'ils veulent rien faire, qu'ils sont à l'autre bout du monde, ils font rien. Mais s'ils veulent un petit peu s'impliquer dans la vie du dossier, ils peuvent le faire en votant une fois ou deux fois par an. Enfin, au moins une fois pour valider les comptes chaque année. Et une deuxième fois s'il y a un sujet de vente ou de travaux ou autre.
Ouais, il y a quand même un lien avec la communauté d'investisseurs qui prend part au projet pour voilà, et sans pour autant organiser des assemblées extraordinaires, des assemblées générales extraordinaires tous les 4 matins où il faudrait se déplacer, etc. Ça pourrait être contraignant et des fois un peu chiant aussi, c'est âgé.
Ouais.
Là, ça se fait en ligne, ça se fait bien, etc. Ok, ouais.
On essaye d'avoir toujours une approche très pédagogue, pas avec des grands textes où on ne comprend pas grand-chose. On leur dit voilà, le local, en place sur le sujet de la boulangerie qu'on va peut-être vendre. Je vais les consulter la semaine prochaine. Je vais leur dire voilà, on l'a acheté tant. A priori, ça vaut tant. Si on vend à tant, voilà combien vous allez récupérer. Vous avez mis, je sais pas, 5 000 euros, vous allez en récupérer 7. Si on vend, c'est à mon avis, c'est pour mars-avril. Est-ce que ça vous tente, oui ou non, quoi? Et on dit oui ou non, ou oui, mais minimum 300 000 euros l'actif, ou minimum 280, parce que sinon, je pense qu'il faut le garder. On lance le sondage, et en fonction du résultat des votes, on mettra en vente ou pas, quoi.
Ok, ouais. Depuis 2016, vous avez financé grosso modo combien de commerces actuellement?
On a financé une trentaine de commerces.
Ouais.
Une trentaine de commerces avec trois zones géographiques privilégiées qui sont Paris-Île-de-France.
Ok.
On doit avoir un bon tiers Paris-Île-de-France, un bon tiers dans le Nord, parce que moi je suis Lillois, j'habite à Lille, donc c'est vrai que c'est plus facile pour sourcer et pour gérer. Et l'autre tiers, c'est un petit peu partout en France, mais beaucoup dans le Grand Ouest. Nous, le Grand Ouest, c'est l'axe Le Havre-Bordeaux.
Ok.
Donc c'est Le Havre, Caen, Rennes, Nantes, Vannes, Lorient et jusqu'à Bordeaux.
D'accord. Vous avez déjà financé des biens sur Poitiers?
Non, mais mon associé Clément Dornier est originaire de Poitiers.
Ah, cool.
Donc je sais que lui investit beaucoup à Poitiers, mais on n'a pas encore trouvé d'actif à Poitiers, mais ça fait partie des villes qu'on regarde. Donc c'est si tu nous trouves un petit dossier, on peut regarder.
Ouais, bah avec grand plaisir. Il y a des choses qui se passent, c'est assez intéressant. C'est vrai que les villes sont actives, sont vivantes, et il y a une transformation. On voit n'importe quelle ville de son enfance, on y retourne, comparer ce que c'était il y a 10 ans, 20 ans, etc. Et c'est en évolution, et c'est intéressant. Donc
Ouais.
avec grand plaisir, parce qu'il y a des choses à faire, ouais.
Ouais, et puis on essaie nous de vraiment de recréer du lien entre l'investisseur et le locataire, ou alors pas dans tous les commerces parce que c'est compliqué, mais dans certains d'entre eux, tous ceux qui ont investi dans un projet, ils ont souvent une réduction quand ils vont consommer dans le commerce dans lequel ils ont investi.
Et ouais, top, ouais.
Je donne un exemple, la toute première opération qu'on avait faite, c'est une poissonnerie à Lille. Tous ceux qui ont investi dans cette poissonnerie, ils ont 10% de réduction quand ils vont faire leurs courses. Donc ça change un petit peu la manière dont on appréhende l'investissement en disant bah finalement je vais aller discuter avec mon poissonnier, je vais aller voir comment il va, je vais lui poser des questions et je vais me sentir un peu plus chez moi. Je vais peut-être évidemment faire plus mes courses dans le commerce dans lequel j'ai investi pour qu'il marche un peu mieux, pour qu'il paye un peu mieux aussi ses loyers derrière. Donc on change un peu la dimension. L'investissement c'est pas des tableaux Excel et des chiffres, c'est aussi de l'humain derrière, c'est aussi c'est des rencontres, c'est discuter avec des locataires, c'est comprendre un peu ce qu'ils font, c'est aller les voir, aller rentrer dans la boutique et remettre un petit peu d'humain dans l'investissement. Et ça, moi, ça me plaît énormément. Et ça plaît aussi aux investisseurs, ça plaît aussi aux locataires qui voient peut-être des nouveaux consommateurs qui arrivent et qui sont plus à dire bonjour, je veux ça, merci, au revoir. Bon, bah comment ça va, etc. Donc on recrée un peu d'humanité et ça marche assez bien. Donc on essaye de faire des réductions comme ça chez certains commerçants. Alors évidemment, on peut pas le faire chez tous, hein. On va pas le faire chez La Poste ou dans les banques qu'on achète ou dans une crèche. Mais quand c'est des commerces de proximité type boulangerie, poissonnerie, là on a fait un restaurant dans le 9e. Un restaurant dans le 9e, ils vont avoir tous. Donc on est en train de finaliser ce qu'on vient de l'acheter. Est-ce que c'est 10% ou est-ce que c'est un premier déjeuner offert pour la communauté? Donc en tout cas, on veut recréer du lien avec les commerçants. Et les commerçants, on leur propose aussi à chaque fois d'investir dans la collecte, forcément.
Eh oui.
Quand on lance un projet, on va voir le commerçant, on dit voilà, on est en train de racheter les murs de votre boulangerie. Sachez que, un, vous pouvez investir dans la collecte, vous avez le droit, ce qui vous permettra indirectement de récupérer les loyers que vous payez. Parce que du coup, si vous prenez 10% de la collecte, bah 10% des loyers reviennent chez vous. Donc ça, on le fait. Donc on n'en a peut-être pas beaucoup, on en a peut-être 3, 4 qui l'ont fait. Mais c'est quand même bien d'être aligné avec son locataire parce qu'il investit, donc les intérêts de tout le monde sont alignés. Du coup, on imagine qu'il va aussi payer ses loyers parce que il se les paye aussi à lui-même. Et ensuite, on essaie d'intégrer tous les acteurs du projet dans l'opération, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit les notaires, les banquiers, l'assureur. On essaie de dire, voilà, sachez que vous avez tous le droit d'investir. Alors, les notaires, c'est compliqué, ils n'ont pas trop le droit d'investir dans les projets sur lesquels ils travaillent.
Ouais.
Mais les autres, on leur dit, c'est ouvert à tout le monde. Si le projet est vraiment bien, si vous l'avez financé au niveau de la banque ou si vous voulez l'assurer au niveau assurance propriétaire, sachez que vous pouvez aussi investir dans la collecte. Et on a même réussi à faire investir des vendeurs. On a vu des vendeurs qui vendaient un petit peu à contre-cœur on leur a dit, bah, sachez que vous pouvez réinvestir et garder un petit bout de ce bien. Et on a eu 3 dossiers dans lesquels les vendeurs ont remis une petite participation dans le dossier à hauteur de 10 ou 15% pour garder un petit peu la main, ce qui nous rassure s'il la met dans la collecte, c'est-à-dire qu'il vend pas parce qu'il y a un problème, mais juste parce qu'il a, il a besoin de vendre. Et s'il y a un sujet technique sur le bâtiment ou autre, on sait qu'il connaît bien l'immeuble. Donc c'est sympa d'avoir aussi des vendeurs dans la collecte.
Ouais, bah super intéressant le fait voilà de faire participer un petit peu tous ces acteurs, de les rendre proactifs et d'essayer de créer comme ça ce cercle vertueux et de remettre un petit peu d'humain au cœur de la finance. Moi, sur le podcast de la Bonne Fortune, bien sûr, on évoque différents types d'investissements. À titre personnel, je suis curieux, j'aime bien les crypto-actifs, etc., etc. Mais le fait de se recentrer sur du tangible, d'investir avec du sens et de participer en quelque sorte à l'économie réelle et de remettre comme ça l'humain du lien à travers tout ça, je trouve ça super intéressant. Donc, félicitations pour ça. Est-ce que vous prenez également, vous proposez, ou c'est à l'étude, des prises de participation quand c'est comme ça, même dans l'activité du commerce qui se crée Est-ce que c'est à l'étude? Est-ce que vous le proposez? Comment ça se passe là-dessus? Parce que des fois, ça peut être intéressant, plutôt que de simplement acheter les murs, louer au boulanger, on va rester sur la boulangerie, peut-être faire une location un peu peut-être diminuée en contrepartie d'une prise de participation dans la boîte du locataire.
Bon, j'aimerais bien, hein, ce serait super en termes d'alignement d'intérêts et aussi d'aventure. Sauf que nous, la particularité, c'est qu'on achète des locaux qui sont déjà occupés.
Et oui.
Donc, il y a déjà un locataire en place, il y a déjà un bail qui est en cours. Donc, en fait, le dossier, il tourne déjà. On pourrait l'imaginer si jamais le locataire part, qu'il y en a un nouveau qui arrive, de se dire, bah, dans le nouveau, on va effectivement prendre une participation. Mais après, c'est un autre métier, c'est une autre stratégie d'investissement, c'est d'autres risques, c'est plus de l'immobilier, donc c'est moins notre savoir-faire aussi. Ça pourrait être une idée, mais on mélange un petit peu tout là, je pense. On n'est plus trop sur l'investissement immobilier, assez clair.
Ouais.
Voilà, on l'a jamais fait, on n'a jamais vraiment creusé, mais pourquoi pas pour continuer un peu ce cercle un peu vertueux.
Au gré des opportunités futures, ouais.
Non, mais dans le commerce, par contre, t'as des mécanismes aussi un peu différents où t'as parfois tu mets parfois un loyer plus bas.
Mmh.
Et tu dis, par contre, si je prends un pourcentage de votre chiffre d'affaires.
Eh oui.
Ou si votre chiffre d'affaires dépasse tel montant, vous payez tant un peu de loyer en plus. Donc, vous êtes indexé sur le chiffre d'affaires du commerçant.
D'accord.
Donc, s'il marche très bien, il peut se permettre de payer un peu plus de loyer. S'il marche moins bien, on ne le fait pas non plus trop souffrir et on prend un peu moins de loyer. Ça se fait pas mal aussi.
Ok, d'accord. Et donc, ça, c'est par exemple dans des clauses du bail.
Ouais.
Ok, d'accord. Ouais. Où tu parlais tout à l'heure de cette liberté d'écriture sur le bail commercial. Ouais, c'est intéressant, ouais, en effet, de corréler ou en tout cas de mettre des clauses sur la performance. Et voilà, c'est, encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. Si l'activité est un petit peu juste, ben ça permet d'éviter le dernier coup de massue. Et à l'inverse, si ça cartonne, etc., parce que vous avez accompagné, mais dans des bonnes conditions, vous participez également en tant que propriétaire du local, c'est du gagnant-gagnant. Vous recevez les fruits de ça, ouais. Très, très intéressant, ouais. J'avais pas cette idée en tête, tu vois, d'où l'intérêt, encore une fois, d'écouter des podcasts, pour le coup, d'être proactif, et on en apprend tous les jours, c'est top. À titre personnel, quelles sont, toi, les classes d'actifs sur lesquelles, toi, tu investis? Et attends, je te poserai la question juste après, mais juste avant, pour finir avec un petit peu donc Baltis Capital et la solution que vous proposez sur la prise de participation, etc. Donc tu parlais des frais, des conditions d'entrée, etc. Est-ce que pour les auditeurs, les auditrices de la Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui, tu pourrais peut-être proposer une petite offre, quelque chose? C'est bientôt Noël en plus, à l'approche des fêtes, ça pourrait être bien cool.
Carrément, nous on a une offre de parrainage, donc on peut faire un parrainage plus large pour les auditeurs de la Bonne Fortune. On peut faire, alors c'est pas un code promo, mais un code promo, code parrainage, donc avec le code LBF, donc la Bonne Fortune. Si vous vous inscrivez sur le site, que vous mettez ce petit code, vous aurez 100 euros offerts à votre premier investissement, sachant qu'on peut rendre ça valable jusqu'au 31, enfin jusqu'à fin janvier, sachant que d'ici fin janvier, on aura normalement des opérations de marchand de biens qui vont sortir. Et normalement, on s'est positionné sur un Franprix dans les Hauts-de-Seine. Donc, la collecte devrait être lancée en janvier. Donc, pour tous ceux qui veulent investir dans un Franprix dans les Hauts-de-Seine, à mon avis, mi-janvier, on fera cette petite offre de promo, 100 euros offerts, si vous souscrivez.
c'est plus qu'une petite offre, c'est une belle offre de promo et qui en plus, ben merci parce que tu la proposes jusque fin janvier, donc même après Noël, donc ça sera les fêtes pendant 2 mois. Merci beaucoup, ouais. Alexandre. À titre personnel, donc du coup, toi, tu investis sur quel type de classe d'actifs? Bon, j'imagine, tu es le premier investisseur de ta boîte personnellement. Tu investis toi-même à travers ta boîte dans les projets que tu proposes aux différents investisseurs. Mais toi, personnellement, est-ce que tu fais de l'immobilier locatif? Est-ce que tu es sur les marchés financiers? Tu achètes peut-être de l'or, des crypto-actifs? Quelles sont tes petites classes d'actifs préférées, si tu en as?
Ouais, alors j'investis dans pas mal de choses. Sur la partie immobilier, j'ai acheté ma résidence principale. Je pense que c'est quand même une bonne stratégie. Moi, je suis plutôt pro investissement en résidence principale parce que pour le confort, la sécurité, l'effet de levier, la plus-value non taxée, la revente, etc. Donc, je pense que c'est quand même bien d'acheter sa résidence principale. Jamais fait du coup d'investissement locatif dans le résidentiel.
Ok.
Parce que j'ai pas envie en fait de gérer des étudiants, des jeunes, etc. Et je crois que c'est trop complexe à gérer, c'est un peu trop d'emmerdes. Donc je fais que de l'immobilier professionnel, donc que des commerces. Donc soit je le fais au travers de Baltis, donc je mets moi des participations dans plusieurs projets à titre perso parce que c'est facile, c'est rapide. Je mets 2000, 3000, voilà, je mets un petit peu pas dans toutes les opérations, mais j'essaye dans pas mal. On n'en a pas parlé, mais les opérations sont aussi éligibles au PEA et au PEA-PME. Donc ça, c'est des particularités aussi, c'est qu'on peut investir dans l'immobilier via son PEA et du coup avoir une fiscalité quand même très, très adoucie. Donc c'est vrai que j'utilise pas mal mon PEA pour investir dans les opérations de Baltis. Donc voilà, j'investis dans beaucoup de projets de Baltis Commerce. Je fais aussi des petits, qu'on appelle des petits club deals avec des amis, mais on achète des commerces derrière. On a acheté avec 3 copains, on a acheté une petite pharmacie à Lille, on a acheté une agence immobilière aussi à Lille. Donc je suis plutôt à investir près de chez moi, en tout cas dans des villes que je connais, dans des quartiers que je connais, parce que je suis rassuré, parce que je connais l'emplacement, parce que s'il faut gérer une urgence, je suis pas très loin, parce que la banque, elle aime bien financer aussi des projets localement, donc pas trop loin. Donc ça, c'est sur les classes actifs. J'ai aussi investi dans des SCPI sur 2 verticales, l'immobilier de santé, parce que je pense que c'est clairement une classe active très résiliente, qu'on aura toujours besoin de se soigner. Je pense que Google ne va pas nous rendre immortels tout de suite, donc il y a un peu d'avenir encore pour la santé. et la logistique aussi. La logistique, parce que je pense que c'est le pendant de l'avenir du commerce. Je pense que les commerces ont... L'avenir, c'est vraiment d'être en cœur de ville, sur des petites surfaces, mais avoir des entrepôts en périphérie qui viennent te livrer rapidement. Et si tu vois un exemple, moi, que j'aime bien, c'est celui de Decathlon, qui ouvre des Decathlon City de plus en plus dans les cœurs de ville. Où tu ne peux pas acheter, c'est juste un espèce de showroom. Tu commandes un peu dans la boutique et le temps que tu rentres chez toi, le colis, il est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça que je pense que le commerce de demain a besoin d'un petit entrepôt tampon en périphérie. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à la logistique urbaine. Donc, ça, c'est pour la partie immobilier. Ensuite, moi, j'ai pas mal investi il y a 4-5 ans dans les cryptos. En 2017, où les gens me prenaient un peu pour un fou, mais je me suis dit, c'est quand même une nouvelle façon de consommer, qui va arriver pour payer, pour investir, pour acheter. Donc je m'en suis plutôt bien sorti financièrement et du coup je suis basculé pas mal sur les NFT depuis janvier, depuis on va dire un an.
Cool.
Donc j'en ai acheté, j'en ai même créé. J'ai créé des NFT Matière Lire, le podcast que je gère, mais bon, c'est pas un grand succès pour l'instant, mais bon, j'ai au moins créé pour voir un peu ce que c'était, comment créer des NFT, comment on les met en vente et comment on réussit à les vendre. Ça, c'est la dernière étape que j'ai pas encore réussi. Voilà, et après ça, sur tout ce qui est financier, je le fais pas trop parce que ça me parle un peu moins. Alors, j'ai investi dans quelques actions type Tesla, Netflix, Disney, donc des boîtes qui me parlent. Mais investir dans les plus grosses boîtes du CAC 40, etc., des petites cotées, ça me parle moins parce que tu as moins d'impact. C'est moins parlant d'investir chez Sanofi, par exemple, parce que tu as l'impression d'être une mini goutte d'eau.
Ouais.
Et tu sais que tu vas pas faire x10 non plus. Donc, je suis plutôt soit des jeunes boîtes américaines qui me parlent parce que je suis consommateur de leurs produits. Et la dernière étape, moi, j'investis par contre beaucoup dans les startups. Je fais beaucoup de private equity. Donc, plutôt des jeunes boîtes qui se lancent, plutôt dans l'écosystème financier et immobilier, parce que je connais un petit peu, donc j'ai un plus de regard là-dessus. Mmh. Et donc, j'ai dû investir dans une dizaine de boîtes startups françaises qui étaient vraiment en mode friends family ou en amorçage. Et justement, c'est une activité, je pense qu'on va lancer chez Baltis, enfin l'année prochaine, pour financer des startups qui sont soit dans tout ce qui est health tech, donc la santé, proptech, fintech et food tech. Donc en gros, c'est l'immobilier, la food et la santé. Donc c'est trois domaines moi qui me plaisent déjà à titre perso. Je pense qu'ils ont de l'avenir. Et du coup, on aimerait bien proposer sur la plateforme Baltis aussi des opérations pour financer les startups.
Et ouais, super. Donc ouais, on voit cette culture assez large, assez riche sur tous ces pans d'investissement, les différentes classes d'actifs, une volonté de diversification, de curiosité.
Et le dernier point, je ne sais pas si tu connais, sur la partie assurance vie, j'ai un peu investi dans Nalo.
Ouais.
Donc Nalo qui fait de l'assurance vie, mais qui fait par projet. Donc ça veut dire au lieu de te faire une allocation assez classique dans ton assurance vie, tu dois répondre à pas mal de questions sur, sur toi, quel âge, nombre d'enfants, etc. Mais sur ton projet de vie. Parce que ton projet de vie, c'est de préparer ta retraite, c'est d'acheter une maison rien secondaire, c'est payer des études pour tes enfants. Et en fonction de ton projet, eux te font une allocation d'actifs très, très sur mesure en fonction de ton projet à toi. Donc moi, j'ai bien aimé cette approche d'investissement par projet, ils appellent ça par objectif. Donc raconte-moi un peu qui tu es et ce que tu veux faire et je vais te dire dans quoi tu dois investir et pas l'inverse. Quoi.
Ouais, c'est un peu plus sympa que juste le simple questionnaire du profil de risque. Est-ce que tu es fonceur ou prudent, etc., etc. Et là, c'est vraiment en fonction de tes projets.
Bah, tu vois, s'ils ont 1000 clients, ils ont 1000 allocations différentes parce que personne n'est pareil. Mmh. On peut pas être dynamique tous les deux. On n'a pas le même âge, on habite dans la même ville, on n'a pas les mêmes projets. Et donc, on ne devrait pas avoir la même allocation d'actifs. Donc,
bien sûr, ouais.
Faire par objectif, je trouve ça beaucoup plus sain. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu investi chez eux. Ouais.
D'accord. Et donc, chez Nalo, OK. Tu en as parlé justement là sur les NFT. Donc tu as créé avec donc tu l'as évoqué, je le rappelle hein, tu es également parce que tu as multifacette, tu as 150 000 vies mais tu as également lancé un excellent podcast donc Matière Lire sur l'ensemble des finances personnelles hein, on est grosso modo sur les mêmes thématiques. Tu as eu des invités vraiment de dingue aussi, j'ai écouté l'épisode avec Kavissima, le fondateur de Kavissima, c'était vraiment top.
Thierry Godet sur l'investissement dans le vin. Ouais.
Yes. Et du coup sur les NFT, donc ça me fait la transition sur la technologie de la blockchain par rapport à tous les services que vous proposez aujourd'hui, donc la prise de participation, donc là c'est la souscription, encore une fois, des actions, etc. Merci encore une fois d'avoir rappelé que c'est l'IGPEA, PEA, PME, parce que c'est encore super puissant, parce que ça démultiplie sur la fiscalité. On a pu faire des épisodes là-dessus, d'ailleurs, avec, je pense que c'est un de tes amis, Clément Francôme, sur le PEA-PME, ouais. UTO4.
On bosse avec eux. D'ailleurs, on les remercie parce qu'ils nous facilitent quand même beaucoup la vie, parce qu'ils digitalisent toutes ces souscriptions via le PEA-PME, qui est quand même très, très complexe et très archaïque au niveau des banques. Et grâce à eux, on gagne du temps et l'investisseur gagne du temps. Les banques gagnent du temps, donc c'est vraiment un super outil. Nous, on les suivit depuis très longtemps. On avait vraiment envie qu'ils y arrivent parce qu'on savait qu'ils allaient un peu transformer tout ça. Et là, c'est en train de vraiment bien marcher. Donc Clément, je te remercie encore une fois, comme à chaque fois que je peux le faire pour cette solution qui nous est vraiment très utile.
Et ouais, parce que encore une fois, bon, après il y a l'épisode qui est disponible, mais il met en relation et les banquiers et les investisseurs et les plateformes comme la tienne qui proposent ces solutions, et ça facilite le travail pour tout le monde, parce que c'est vrai que l'intégration des titres non cotés dans un PEA ou PEA PME, ça peut être un peu le parcours du combattant pour certaines banques. Je peux citer par exemple Boursorama où c'est vraiment une galère. Je peux me permettre de le faire, après je veux pas qu'ils me tombent sur les doigts, moi j'ai pas de bisbille avec eux. Pour le PEA classique sur les actions, ils travaillent de façon vraiment remarquable, ils sont reconnus, mais pour l'intégration des titres non cotés, c'est une galère
et c'est très cher aussi. Enfin, généralement quand c'est une galère, forcément c'est cher. Mm-hmm. Parce que du coup eux, ça leur prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc ils prennent des frais assez élevés pour essayer d'amortir ce temps. Et à l'inverse, Before Bank, qui est aussi une banque en ligne d'un grand groupe, eux c'est carrément l'inverse, ils sont ultra réactifs, ultra facilitateur et du coup beaucoup moins cher.
Exactement,
pour les titres de mon côté.
Ouais. Je suis en train de migrer mon PEA, PME chez eux sans leur faire de pub, mais avec grand plaisir. Je suis en train de migrer pour exactement tout ce qu'on a évoqué. Et donc, du coup, c'est NFT pour y revenir. Donc, cette technologie de la blockchain, quelle est ta vision là-dessus? Donc, tu bosses avec la solution que propose Clément, UTO4 et Catalyzer. Est-ce que en interne, vous intégrez ou vous pensez intégrer ces solutions? Qu'est-ce que pour toi la blockchain va pouvoir apporter dans tout le secteur de l'immobilier commercial ou autre et sur ton business?
Moi, je pense que la blockchain, c'est un super avenir pour la partie immobilier parce qu'on voit le temps et l'énergie qu'on prend pour récupérer des documents, pour que les notaires même puissent récupérer des documents. On a souvent un délai d'un mois entre le moment où on décide d'acheter et le moment où on signe la promesse. Mais en fait, ces un mois-là, c'est juste récupérer les documents, récupérer le titre de propriété, récupérer l'hypothèque, récupérer un tas de documents, un nombre de documents qui est de plus en plus grand. Et donc, moi, je serais très favorable à ce que les notaires utilisent cette technologie pour stocker les documents de manière très quasiment publique, où en fait, on n'a pas essayé de récupérer des scans, des documents, demander à la mairie, demander aux banques, demander aux vendeurs, et au fait, le PV d'AG, il est où? Et en fait, si tout était enregistré, on aurait juste à aller piocher dans les documents. Il y aurait, en termes de sécurité, pas de falsification, pas de modification des documents, ils seraient dispo tout de suite. Donc, on gagnerait déjà un temps fou pour pouvoir signer plus rapidement. Et c'est tout l'enjeu de l'immobilier qui est quand même très, très lent. Hein. Donc, on disait, hein, pour acheter, c'est 4, 5 mois, 6 mois. Et moi, j'aimerais bien que demain, l'immobilier, on puisse acheter en un mois, voire même en une semaine. Et en fait, tous ces délais un peu incompressibles, c'est parce que il y a de la paperasse, il y a des intervenants, il faut aussi purger les DIA. Donc, quand on achète, on doit quand même demander aux mairies si elles veulent, elles sont prioritaires pour acheter. Elles ont 2 mois pour répondre. Il faudrait qu'elles aient 2 heures pour répondre. Comme ça, on pourrait acheter de l'immobilier et le rendre beaucoup plus liquide. Mmh. Et c'est aussi une force qu'on a chez Baltis, c'est que quand tu as investi dans un projet, il y a peut-être, je sais pas, 50 personnes, si toi, tu veux revendre ta part, tu peux la revendre en 24 heures ou 48 heures à quelqu'un s'il te la rachète. Versus si tu es tout seul et que tu veux vendre ton studio ou même ta boulangerie si tu l'as acheté tout seul, bah, tu reprends 3, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois. Et je pense que la blockchain est là pour faire accélérer les process d'achat et de vente sur un secteur qui est le plus long. Autant les actions, ça prend quelques secondes, les obligations, ça va aussi très vite. Mais alors l'immobilier, c'est le pire, ça prend des mois et des mois. Quoi. Donc moi, je pousse les notaires à vraiment, et les banquiers aussi, à passer le pas de la blockchain pour faciliter tout ça. Ouais.
Il y a encore beaucoup de réticence de la part de certains banquiers. Alors, est-ce qu'ils ont ce discours en façade pour éviter de pousser sur l'investissement des cryptoactifs, ou alors est-ce qu'ils sont complètement déconnectés de cette nouvelle technologie qu'est la blockchain? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait intéressant que chacun emboîte le pas, mais il y a quand même, pour avoir également réalisé des émissions sur le podcast avec de notaires, il y a quand même une sensibilité, il y a quand même un œil, une curiosité qui est là, qui est présente, et je pense que ça avance malgré tout dans le bon sens, et même en France, même si bon, des gens comme toi, entrepreneurs, multi-entrepreneurs, etc., on aimerait forcément que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus smart pour tout le monde, mais voilà.
Ça arrive doucement, hein, et je pense que le confinement a bien aidé aussi à ça. Moi, je me rappelle en 2016, quand je créais les premières sociétés, je fallait que j'aille au greffe déposer une liste de documents pas possible en main propre. Aujourd'hui, tu signes un DocuSign et tu le mets sur un faux greffe et tu as ton cabis 48 heures après. Donc, il y a quand même, ça bouge quand même, c'est le greffe, ils sont maintenant bien digitalisés. On peut signer aussi maintenant chez le notaire des actes à distance.
Ouais, c'est ouais, bien sûr. Aussi.
En visio, ou même en DocuSign, on fait des procurations DocuSign, c'est accepté. Les banques, on commence à pouvoir ouvrir des comptes en banque. Tu vois, je prends souvent l'exemple de Conto, qui est vraiment génial. Tu peux ouvrir un compte bancaire en 24 heures. Tu fais juste une photo que tu envoies par SMS, souvent, de ta carte d'identité, et hop, ton compte, il est ouvert. Quoi.
Ouais, ouais.
On voit que ça avance quand même, hein, ça avance bien. Et je pense que le confinement a bien aidé sur les signatures à distance et digitales.
Nos amis les comptables, c'est pareil, ils proposent de plus en plus de solutions digitalisées où on peut intégrer les factures, etc., etc. Et enfin voilà, c'est ouais. Vrai que l'administratif et ses délais de temps en temps, surtout comme tu le disais sur l'immobilier, c'est un petit peu le pendant, et c'est peut-être pour ça aussi que encore une fois l'immobilier commercial, ça peut faire peur, parce que les chiffres exacts, je les ai pas, mais il doit y avoir 60% des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale, et simplement dans les propriétaires, peut-être que 10 ou 20% qui ont un bien locatif. Et alors, un bien locatif commercial, je ne sais pas si tu as des stats, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de monde. Et du coup, c'est un peu méconnu. Et le fait que ce soit pas forcément accessible, un petit peu long, ça n'encourage pas. Donc, encore une fois, ben, chapeau et félicitations. Merci pour ce que tu proposes à travers ton offre. Parce qu'encore une fois, pour la résumer, à partir de 1000 euros, on peut être propriétaire d'une partie des murs d'un commerce, une boulangerie, une crèche, etc. On a une prise de participation au sein de la société qui va être créée, donc pour acquérir ces murs, c'est éligible le cas échéant PEA, PEA, PME en 2 clics, et on a ce rendement tout au long, et on bénéficie à la sortie de la plus-value. Merci également pour ta transparence sur les frais, qui sont indolores entre guillemets pour l'investisseur qui, dès lors qu'il investit 1000 euros, il y a bien ces 1000 euros qui travaillent, mais on rappelle donc 5% à l'entrée, 5% de frais de gestion tout au long de la vie du commerce, la gestion du commerce, de la société, etc., les différents frais, et 5% uniquement sur la plus-value à la sortie. Donc ouais, cool. Je t'ai posé une petite question pour préparer cette émission. Si tu avais une petite citation, coup de cœur, un petit mantra que tu aimes bien, que tu te répètes et que tu voudrais partager aux éditeurs, auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui, Alexandre.
Ouais, non, c'est une citation, enfin, c'est oui, une citation que j'ai entendue il y a quelques jours qui m'a bien plu. C'était quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de s'attacher chez Baltis, c'est dès qu'il y a un dossier qu'on sent pas trop, en fait, on a déjà la réponse. Donc en fait, si on se pose la question sur est-ce que l'investissement est vraiment bien, et si on hésite à répondre oui, bah c'est qu'en fait c'est non. Donc il faut tout de suite éliminer. Je pense que des opportunités d'investissement, il y en a régulièrement. Parfois on passe à côté de très belles affaires, bah c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais parfois on a réussi à éviter des mauvaises affaires parce qu'on a eu un doute. Et dans ce cas-là, il y a pas de doute, tant pis, on passe au suivant et il y en aura d'autres. Quoi. Et on a atteint une taille critique maintenant chez Baltis où on n'est pas à un dossier prêt, et si on n'en fait pas un, bah c'est pas grave. On n'a pas justement cette stratégie un peu comme les SCPI qui ont des obligations d'investir rapidement. Nous, s'il n'y a pas de projet, bah tant pis, il n'y a pas de collecte, c'est pas grave.
Quoi. Ouais, ouais,
donc
ouais.
On essaie de vraiment faire moins de dossiers, mais d'avoir des fortes convictions à chaque fois qu'on en fait un.
Ouais, bien sûr. Ouais. Vous êtes combien de collaborateurs chez Baltis?
Là, on est huit personnes, on a le bureau à Paris, et en fait, dans les huit, en fait, on a un peu coupé l'équipe en deux. Il y a une partie qui fait plutôt la partie immobilier, ouais, le sourcing, l'acquisition, la gestion des actifs, et l'autre partie qui fait plutôt la partie investisseur, donc recherche d'investisseurs, partenariat, communication, marketing, etc. Et l'idée, okay, c'est évidemment de croiser l'investisseur et le projet sur la plateforme à un instant T, donc c'est les deux grands versants.
D'accord. Et depuis donc 2016, vous êtes développé, vous avez fait des levées de fonds, comment vous êtes développé jusqu'à aujourd'hui?
Non, bah jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais levé de fonds. J'étais tout seul, et je m'étais dit que j'allais avoir la même stratégie que la stratégie d'acquisition des actifs, donc du long terme, du patrimonial. On va y aller doucement mais sûrement. On va pas faire x10, mais parce que les actifs qu'on achète vont jamais faire x10 non plus, hein, ça reste de l'immobilier assez classique. Donc c'était plutôt une vision long terme, doucement mais sûrement. Et il y a quelques mois, j'ai voulu aller accélérer un petit peu plus, notamment sur l'ouverture de d'autres classes d'actifs. Donc on a, ouais, parlé du promoteur marchand de biens, certainement du private equity startup qui va arriver prochainement. Donc j'ai fait rentrer Magellim au capital, donc Magellim qui détient la foncière Magellan dans laquelle je travaillais avant, qui a pris une participation dans notre activité parce qu'on a des convictions assez fortes. Eux, ils font que des produits d'investissement qui arrivent à allier performance et sens, donc sur la santé, sur l'ISR, etc. Donc on était assez alignés sur la vision de demain. Donc ils ont pris une participation, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite, d'accélérer et d'avoir pas mal de perspectives sur 2022, sur d'autres solutions d'investissement.
D'accord, vous n'avez pas de levée de fonds public qui est à l'étude à l'heure d'aujourd'hui. Ouais.
Non, mais si tu veux investir via ton PEA, on peut voir ça avec Clément et trouver une solution.
Avec grand plaisir, on verra ça avec grand plaisir. Bah écoute, merci pour tout. Vous savez qu'on peut te retrouver, te communiquer, donc bah forcément sur le site Baltis Capital, ouais. Baltis, Baltis. De toute manière, comme d'habitude, il y aura tous les liens dans les notes de l'épisode. Sinon, pour communiquer sur LinkedIn, tu es présent?
Ouais, plutôt sur LinkedIn, ouais.
Ouais, plutôt sur LinkedIn, ouais.
Sur le site, il y a même un petit chat sur lequel on peut parler, et c'est des humains qui répondent, hein. C'est souvent moi ou Mariama qui répondons, donc c'est pas du virtuel. Sinon, par mail, sur LinkedIn, sur les réseaux,
okay,
ou via mes petits NFT qui sont toujours à vendre, je réponds aussi.
Yes, bah, je mettrai les NFT, j'irai voir ça et je les mettrai dans les notes de l'épisode aussi si ça intéresse. Je te remercie pour ton temps, toutes tes explications. Encore une fois, passé un super moment et ça a permis encore une fois d'apprendre et de développer ses connaissances et ses compétences. Et puis, avec grand plaisir également pour participer aux prochaines opérations que tu as décrites tout à l'heure.
Ouais.
Merci pour tout. Je te laisse, si tu veux, Alexandre, le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui nous ont écoutés jusque-là.
Ouais, bah surtout, déjà, merci à toi encore une fois pour l'invitation et bravo pour tous tes épisodes aussi, parce que je trouve ça vraiment passionnant de découvrir, en tout cas de prendre le temps de découvrir des nouveaux concepts, des nouvelles solutions d'investissement, des nouvelles visions. Et je suis assez aligné avec ça, évidemment. Et le petit mot que j'ai, moi, toujours aux auditeurs, aux gens que je crois, c'est d'essayer de rester fidèle à ses convictions. C'est que ne pas faire la course au rendement, ne pas faire la course aux chiffres, et d'essayer de remettre un petit peu, parce qu'on disait, un peu d'humain, un peu de simplicité, un peu de conviction, un peu de local. Moi, j'aime bien investir localement parce que je trouve qu'il y a du sens. Et je préfère rogner un petit peu sur les rendements si j'arrive à apporter un peu plus de sens, un peu plus de conviction à ce que je fais. Donc voilà, prenons le temps de faire des choses qui ont du sens pour nous. Prenons le temps aussi de faire des investissements qui nous amusent. Tu vois, acheter des cryptos, des NFT, c'est plus amusant que qu'un super coup financier. C'est pas ça qui va assurer notre retraite ou l'avenir de nos enfants, hein, à titre personnel. Mais voilà, c'est garder une petite poche d'épargne aussi pour s'amuser, faire des choses un peu originales, comme tu disais, dans le vin, dans l'art, dans les choses qui nous amusent. Et puis voilà, restons proches de nos convictions, de qui on est. Pour c'est à mon avis, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie, c'est de rester proche de qui on est, quoi.
Super conclusion, je te remercie pour tout ça, Alexandre. Et puis, encore une fois, je te souhaite énormément de belles réussites pour tous ces projets en cours et à venir. Et je te dis à très très vite, Alexandre.
Et tu me préviens quand la boulangerie en bas de chez toi est à vendre. J'irai la visiter avec toi et puis on ira investir ensemble.
Avec grand plaisir. La date est prise.
Ok.
Allez, ciao, ciao, merci.
Salut et merci.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.